言ってるけどね、きっと、メッセージが vous apporte、je l'intitulerai Les Trois Abîmes。Je vous lirai dans les psaumes, au psaume 42e, mais comme il est plus important d'entendre la parole que mes paroles, on laissera le verset, je ne parlerai que d'un verset, mais dans son contexte. Alors nous lisons le psaume 42e, qui est un des psaumes des fils de Corée, de ces enfants qui ont su au dernier moment se séparer de leur père et qui ont eu la vie sauve alors que leur père et tous les leurs, tous ceux qui ne s'étaient pas éloignés, ont été engloutis vivants dans le séjour des morts. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tout le jour, où est ton Dieu? Je me souviens de ces choses, et je répandais mon âme au-dedans de moi, comment j'allais avec la foule, et je m'avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange, jusqu'à la maison de Dieu, une multitude en fête. Là, nous voyons le Seigneur venant à Jérusalem, descendant la montagne des Oliviers, et étant acclamé le jour des rameaux, qui se souvenait de ces choses. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Es-tu agité au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, sa face et le salut. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons et de la montagne de Mitzéar. On pense que c'est un des sommets de la montagne de l'Hermon, cette montagne de Mitzéar. Un abîme appelle un autre abîme. À la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et c'est sur ce verset que je voudrais attirer votre attention et vous faire remarquer combien c'est important d'avoir une bonne traduction. Je remarquais que dans la seconde 1910, eh bien, ce verset qui est d'une grande importance, il est traduit d'une façon qui ne rentre pas vraiment le texte. Je crois que vous avez un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Mais entre des ondées et des cataractes, il y a une grande différence. Allez, là dans l'Ontario, comment ça s'appelle? Les chutes du Niagara, ça ce sont des cataractes. Et on les entend de loin, à 11 kilomètres, on entend déjà ce bruit des cataractes. Eh bien, dire des ondées, c'est rafraîchissant, hein. Mais ce n'est pas des ondées. Vous pouvez prendre Chouraki, vous pouvez prendre d'autres traducteurs, et en tout cas, la colombe, qui est la version révisée de la seconde 1910, ils ont fait la correction. On a fait environ 2000 corrections de la seconde 1910 que la plupart des gens ont, mais qui ne rendent pas vraiment le texte. Et là, dans la correction, ils ont un abîme, ils ont bien mis un abîme, hein. Pas simplement, comme il est dit dans le verset 8, un flot appelle un autre flot. Ça ne donne pas l'image, n'est-ce pas, mais là, un abîme appelle un autre abîme, comme au fond, au déluge. tous ces abîmes dont il est parlé dans la Genèse. Un abîme appelle un autre abîme. Et ils ont bien mis aussi dans la correction à la voix de tes cataractes. C'est pas des ondées. Et alors, de quoi est-il question là? Bien, dans tout ce psaume, il est parlé du Seigneur. Et si nous voulons connaître les sentiments du Seigneur, les pensées que le Seigneur avait quand il était sur la terre, ce n'est pas dans les évangiles que nous apprenons cela, c'est dans les psaumes. Et si vous ne vous attachez pas à une lecture des psaumes dans la dépendance du Saint-Esprit, eh bien, vous ne connaîtrez guère la vie intérieure de Jésus. Ses pensées et ses prières, nous savons dans les évangiles qu'il priait, mais nous n'avons que la prière sacerdotale et puis une explosion de louanges quand il voit revenir les disciples qu'il avait envoyés deux à deux pour annoncer l'évangile et qui étaient tellement dans la joie. Le Seigneur, sachant bien avec qui il avait affaire, dis-je, de loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées à ces petits-enfants. En voyant ses disciples, il les appelait ses petits-enfants. Tu les as révélées, ces choses. Mais il disait à ses disciples, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est cela la plus grande joie. Et dans ce psaume, justement, nous voyons le Seigneur qui arrive à la croix. Et ce que je voudrais souligner ici en intitulant les trois abîmes, un abîme appelle un autre abîme. Quels sont ces trois abîmes? Eh bien, le premier de ces abîmes que le Seigneur a connu, c'est l'abîme de nos péchés. Et cet abîme de nos péchés a appelé un second abîme, l'abîme de ses souffrances. Et cet abîme de nos péchés qui a appelé l'abîme de ses souffrances ont été engloutis, ces deux abîmes ont été engloutis dans un troisième abîme, l'abîme de son amour. Et j'aimerais simplement vous donner ces trois pistes de réflexion pour que vous puissiez, dans cette semaine, méditer sur ces trois abîmes. Si vous voulez être des hommes et des femmes qui apprécient la grâce de Dieu et qui savent de quoi ils sont sauvés, il faut avoir sondé un peu l'abîme de nos péchés, dans lequel le Seigneur a dû descendre. Et c'est bouleversant quand nous pensons à ce que sont les péchés du monde, les péchés des hommes et, disons, nos péchés. Regardez ce qu'il a dit dans la première épître aux Corinthiens. Nous avons un verset qui est très fort, au verset 9. Il a dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ?» Puis après, il y a ce « Ne vous y trompez pas ». Et vous savez que dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, il y a quatre « ne vous y trompez pas ». Le premier « ne vous y trompez pas » se trouve au fond dans, enfin le premier il est ici, mais le second, puisque je les cite, le second « ne vous y trompez pas » se trouve dans le chapitre 15 de la même épître aux Corinthiens, au verset 33e. Donc, nous sommes mis en garde, car on pourrait s'y tromper. Et je vous cite ce verset, « Ne soyez pas séduits », verset 33, « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. réveillez-vous pour vivre justement, ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je le dis à votre honte. Et où est-ce que je citais ça, ne vous y trompez pas. C'est le verset 33. Hein? Oui, oui, alors dans la version suivante, c'est le verset 33. Hein? Ne vous y trompez pas, David dit, ne soyez pas séduits. C'est une séduction. Hein? Ne vous y trompez pas. C'est le premier. Et puis, il y en a un autre, Galates, chapitre 6, où vous trouvez encore un « ne vous y trompez pas ». Galates 6, et c'est le verset 7e, si je ne m'abuse. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. » Et puis, vous avez le dernier, dans Jacques, alors. Dans Jacques, au chapitre 1er, c'est une magnifique parole qui nous montre que tout ce que l'on reçoit de bien vient d'en haut. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Voilà les quatre. Ne vous y trompez pas ou ne soyez pas séduits. Ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Mais en revenant à ce chapitre 6, verset 9e, ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes. La version de la Colombe dit ni les homosexuels, n'est-ce pas, pour traduire vraiment dans un langage qui peut être compris. Bien compris, aujourd'hui, je vais prendre cette version-là. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Donc, parmi ces gens-là, il y a eu des sauvés. Et c'est ça qui est fantastique. Hein. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, cela nous montre que quand on rencontre peut-être un homosexuel, quand on rencontre de ces gens qui ont été dans ces péchés, on a un message de salut. C'est extraordinaire. On peut leur dire que le Seigneur les aime et que le Seigneur veut les sauver. Il n'y a pas d'état désespéré. C'est un grand sauveur que nous leur annonçons. Mais dans quel abîme de péché a-t-il dû descendre? Et voyez-vous, j'étais frappé dimanche parce qu'on parlait d'une certaine crainte, une angoisse que le Seigneur avait eue en Gethsémané. Mais ce n'est pas l'angoisse de Judas ou l'angoisse de tout ce qu'il allait souffrir sur la croix physiquement. L'angoisse du Seigneur, et c'est ça que nous devons comprendre, c'était quoi? Lui qui était sans péché, conçu sans péché, qui n'avait jamais péché, qui avait subi toutes les tentations sans péché, mais il a souffert. N'est-ce pas? Le Christ peut nous comprendre parce qu'il a souffert étant tenté, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'y a pas de péché en lui. Et il disait, dans sa course aux Juifs qu'il accusait, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Et même ses accusateurs, ses ennemis, avaient la bouche fermée. Donc, on ne pouvait pas trouver le péché en Jésus. Il était sans péché. Et pourtant, il a vécu proche de tous les pécheurs. Il a été en contact de toutes ces compagnies mauvaises. Mais il est resté le Saint de Dieu. Et alors, à Gethsémané, qu'est-ce qu'il voyait quand il prie et que sa sueur devient semblable à des grumeaux de sang qui coulaient de son front sur la terre, comme cela nous a été rappelé mercredi dernier, hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il voyait? Il allait être ses péchés pour nous. Ces choses abominables, il les prenait sur lui et il allait être traité, lui, sur la croix, comme s'il les avait commis. Comprenez-vous? Son âme sainte était dans une angoisse mortelle. Elle disait, si cette coupe pouvait passer loin de moi, être ses péchés à notre place, lui qui n'avait jamais péché. Alors nos péchés en pensée, nos péchés en parole, nos péchés en action, et tous nos péchés par omission, chaque fois que nous savions faire le bien et que nous ne l'avons pas fait, c'était aux yeux de Dieu un péché. Eh bien, le Seigneur est mort aussi pour nos péchés d'omission, pour nos péchés en pensée. Et vous savez, la sanctification ne doit pas être simplement dans notre chair, où on évite les péchés grossiers, mais dans nos pensées, vous purifiant de toute souillure de chair et d'esprit. Alors, c'est pas seulement qu'on soit purifié des actes, mais qu'on soit purifié dans nos pensées. Et voyez-vous, mes bien-aimés, quand on se trouve devant Dieu et qu'on ne veut pas avoir de fraude dans notre esprit, comme il l'est dit au psaume 32, hein, eh bien, qu'est-ce que nous découvrons? Si les gens connaissaient tout ce que nous avons pu penser, si les gens savaient ce que nous pouvons avoir à certains moments dans nos pensées, ils auraient une drôle d'opinion. Et aucun de nous ne pourrait subsister. Parce qu'il est dit, si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirerait en sang. De sorte, voyez-vous, nous ne pouvons pas nous glorifier. Eh bien, le Seigneur est mort aussi, a pris sur lui nos péchés en pensée. Quelle profondeur! Il est descendu dans cet abîme de nos péchés. Oh, la faute d'Adam nous avait fait tomber. Oh, mes amis, méditez un peu là-dessus. Demandez à Dieu, montre-moi cette profondeur du péché qu'a connu le Seigneur Jésus. Être ses péchés. C'est comme ça que Jésus a connu le péché. Celui qui était sans péché a connu le péché, mais de quelle manière? En étant fait péché pour nous. Il ne péchait point, mais il était fait péché pour nous. Non. Nous ne pouvons que nous taire et adorer. Mais alors, pour arriver à mourir sur la croix, étant fait péché aux yeux de Dieu, eh bien, il fallait un amour immense. Mais, il est entré dans un abîme de souffrance. Et là, à Gethsémané, on commence à s'apercevoir de cet abîme de souffrance. Jésus a été l'homme de douleur dans sa carrière, dans sa vie. Il a eu compassion de tous ceux qui souffraient. Et ce qu'il voyait
autour de lui, tous ces gens qui l'entouraient, et connaissant tous les cœurs, c'était pour lui une souffrance. Mais ce n'était pas une souffrance qui le repoussait. Il a été l'homme de douleur, il a accepté toutes les souffrances, et surtout celle de la séparation avec son père. Et ça, c'est la grande souffrance de Jésus. C'est l'abîme de souffrance qu'il a eu. Toute sa vie, dans ses 33 années de ministère, il pouvait toujours dire, le Père est avec moi, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. Mais sur la croix, quand il serait fait réellement péché pour nous, Dieu allait détourner sa face. Et il serait seul. Tu fus seul sur la croix, buvant la coupe amère, sans qu'un cœur vînt répondre à ton cri douloureux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, c'était pas du théâtre, c'était pas du cinéma, c'était la réalité. C'est péché pour nous. Et le Seigneur a accepté cet abîme de souffrance. Et alors, pour pouvoir tellement souffrir, que fallait-il qu'il ait dans son cœur? Un abîme d'amour. Alors vous voyez, un abîme appelle un autre abîme. L'abîme de nos péchés a appelé pour le Seigneur l'abîme de ses souffrances et demander au Seigneur, fais-moi connaître un peu l'abîme de tes souffrances. Et vous savez, quand on voit comme il a souffert pour nous, qu'est-ce qu'on désire? L'aimer. L'aimer. Il a tout souffert pour nous. Et nous ne l'aimerions pas. Et nous ne voudrions pas souffrir sur la terre. Lui, il a souffert étant tenté. N'est-ce pas? Il a souffert. Parce qu'il a résisté au péché. Et pourtant, ayant toujours résisté au péché, ayant toujours triomphé, eh bien, il a accepté d'être traité comme s'il était le pécheur qui avait commis toutes ses iniquités, toutes ses abominations, pour que nous, quand nous parlons aux âmes, nous puissions leur dire, même si tu crois qu'il n'y a pas de pardon pour toi, oui, il a aussi payé pour toi. Tu te trouves trop mauvais? Mais l'apôtre Paul dit, je suis le premier des pécheurs. De sorte que tous les pécheurs, eh bien, ils peuvent mettre leur nom après l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul a dit que lui, il était le premier des pécheurs. Mais il avait saisi cela. Alors, mes bien-aimés, puissions-nous un peu entrer dans cet abîme de souffrance. Et je pensais en venant là avec le métro à Moïse, qui avait refusé pour un temps, donc, ce qui est appelé dans Darby les délices du péché, et ici dans la version corrigée de second, la jouissance éphémère du péché, ben c'est ça. Une jouissance éphémère. Alors, oui, le péché se présente, et comme il y a la convoitise dans notre cœur, eh bien voilà, nous agissons, nous tombons dans le péché. Hein. Mais c'est une jouissance éphémère, et après, on a la conscience bourrée de remords. Bien, le Seigneur, lui, il a souffert, étant tenté. Et nous ne voulons pas souffrir. Aujourd'hui, dans le monde, même dans le monde dit chrétien, on ne veut pas la souffrance, on veut la fête, hein. On veut la jouissance, même spirituelle, par les cantiques, par n'importe quoi. Mais on essaye de s'exalter. Mais réfléchir à la souffrance du Seigneur et entrer dans la communion de ses souffrances. Et ma femme me disait encore aujourd'hui, il faut que les jeunes sachent que s'ils veulent marcher avec le Seigneur, ils auront à souffrir. Et c'est vrai. Et vous savez, les jeunes, ils sont prêts à souffrir si on les enseigne. Ils ont une capacité pour souffrir, mais c'est à nous de les orienter et de leur montrer que d'accepter le Seigneur, c'est pas j'irai au ciel après. Accepter le Seigneur, c'est accepter la croix dans notre vie. c'est accepter d'être incompris, c'est accepter d'être rejeté, c'est accepter d'avoir des combats et des luttes plutôt qu'une satisfaction passagère. Et il faut que nos jeunes sachent cela. On ne leur apporte pas un salut gratuit. Parce qu'un salut gratuit, eh bien, ça n'a pas de prix. Ça ne vaut rien. Le Seigneur a payé notre dette. Oui, dans un sens, il est gratuit, mais il n'a pas été gratuit pour lui. Il l'a payé. Et nous devons insister auprès des jeunes qui se donnent au Seigneur sur ce prix. Le Seigneur a payé un prix infini pour nous sauver. C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, c'est pas des choses précieuses, c'est son propre sang, c'est sa vie qu'il a donnée. Alors, quand on a compris cela, eh bien, on commence à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Est-ce que c'est possible que je sois sauvé? C'est pas un salut facile. Il m'a sauvé. Et je suis sûr de mon salut. Pour quelle raison? Parce que ce Jésus qui a souffert sur la croix, qui est mort, sans que le Père lui réponde, lors de son cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a baissé la tête. Mais nous, nous ne voulons pas baisser la tête. Nous avons toujours la nuque raide. Il faut baisser la tête. Il a été brisé pour nos péchés. Il a baissé la tête. Alors c'est la grande détente, hein, quand on baisse la tête, quand on reconnaît son péché, alors on a la délivrance. Et on sait de quoi nous sommes sauvés. Et alors, ce Jésus qui nous a aimés jusqu'à la mort et à la mort ignominieuse de la croix, nous l'aimons. Pour quelle raison? Parce que lui nous a aimés, le premier. Et comment nous a-t-il aimés? Mais c'est un abîme d'amour dans lequel nous tombons. Oh, que nous puissions sonder les profondeurs de l'amour du Père qui a été manifesté en Jésus-Christ. Sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, c'est un abîme. Mais sur la croix, eh bien, ces abîmes se sont succédés. Un flot appelle un autre flot, si vous voulez. Mais c'est un abîme appelle un autre abîme. À la voix de tes cataractes, c'était vraiment des cataractes pour le Seigneur, ce qu'il a enduré sur la croix. Mais il a triomphé, il nous a aimés. Et nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que Jésus n'est pas simplement un grand martyr, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont souffert. Et on nous le dit, mais il y en a d'autres qui ont souffert que Jésus. Mais Jésus n'est pas un grand martyr. Il est mort comme étant le péché même. Et vous voyez, Moïse n'a pas mis un agneau sur la perche. Qu'est-ce qu'il a mis? Un serpent. Et il fallait regarder au serpent. Et vous savez ce que signifie le serpent? Eh bien, il a été fait péché pour nous, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, eh bien, il faut aussi que le Christ soit élevé. Et il avait cette vision dès le début de son ministère, et il l'enseignait aux disciples, il faut que je passe par là, parce qu'il voulait nous sauver, et son amour l'a conduit à tout supporter. Et ce que nous savons, c'est que Dieu l'a ressuscité. Oh, que c'est merveilleux. Mort pour nos fautes, et ressuscité pour notre justification. Nous sommes sûrs de notre salut par la résurrection de Christ. Ce n'est pas un grand martyr, c'est le Fils de Dieu qui a racheté le monde pécheur, les hommes pécheurs. Ainsi Dieu est justifié. On ne peut pas accuser Dieu de quoi que ce soit. Il ne nous demande pas de faire notre salut, il nous demande de l'accuser. Accepter ce salut. Mais ce n'est pas un petit salut, c'est le grand salut qui nous emmène avec lui dans cette communion merveilleuse. Oh, puissions-nous le comprendre par la puissance du Saint-Esprit, Dieu notre Père. Avant de nous séparer, nous voulons te remettre encore ta parole et te demander que toi-même, tu nous parles dans les heures qui vont suivre.
parce que quand une réunion est finie, c'est le tête-à-tête avec toi, pour chacun de nous qui doit commencer, dans le silence. Parce que nous avons...